Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Texte très attendu car très contesté, le projet de loi Asile et Immigration était présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Histoire d'en atténuer la sévérité, cette présentation a été précédée avant-hier par la remise d'un rapport sur la politique d'intégration. Son auteur, le député La République En Marche, Aurélien Taché. Son contenu, une série de propositions, 72 au total, visant à mieux intégrer les étrangers qui viennent en France et qui ont pour projet d'y rester. Hasard du calendrier, la Fondation Jean Jaurès remettait le même jour un autre rapport sur ce même sujet. L'un et l'autre font le constat d'une politique d'intégration qui fonctionne mal et préconisent, pour l'améliorer, de doubler le nombre d'heures de cours de français, de mieux accompagner les primo-arrivants dans leur accès au travail et au logement et de favoriser leur apprentissage de la citoyenneté. Autant de domaines dans lesquels de nombreuses associations sont déjà à la fois très actives et très efficaces. Alors l'intégration peut-elle se passer de politique? C'est une question que nous posons dans le cadre de cette journée spéciale que nous consacrons aux questions d'immigration et ce en partenariat avec le journal La Croix. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir trois invités. Carlos Arbelaez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes réfugié, vous êtes arrivé en France en 2011, vous venez de Colombie, vous êtes aujourd'hui consultant sur des questions d'intégration et vous avez présidé une association qui s'appelle l'association Singa qui vient en aide justement aux réfugiés dans leur démarche d'intégration. Pour discuter avec vous, Jacqueline Costa-Lascou, bonsoir.
Bonsoir.
Cette sociologue, directrice de recherche au CNRS. Vous avez été membre du Haut Conseil à l'intégration. Vous avez écrit un certain nombre de choses justement sur ce sujet. Et puis notre troisième invité, Roger Carucci. Bonsoir.
Bonsoir.
Sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine. Vous êtes membre du Conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et vous avez remis un rapport en juillet dernier intitulé « Migrants, les échecs de l'apprentissage du français et des valeurs civiques ». Alors l'apprentissage du français et les valeurs civiques, ce seront justement des thèmes dont nous allons discuter ce soir pour voir ce qui est nécessaire d'être fait pour favoriser l'intégration. Mais je voudrais d'abord qu'on aborde peut-être cette question de manière un petit peu plus globale en se demandant, c'est sans doute la première question qu'il faut poser, c'est qui est concerné quand on parle de politique d'intégration. Jacqueline Costa-Lascou, est-ce que ce sont tous les étrangers qui sont sur le sol français? Est-ce que ce sont seulement ceux qui ont vocation à y rester ou à qui on donne le droit d'y rester? Est-ce que ce sont seulement ceux qui ont besoin d'être aidés dans leur intégration?
Ce sont aussi ceux qui sont là depuis longtemps. J'entends des Français qui sont là depuis plusieurs générations. C'est-à-dire, par définition, l'intégration, c'est un processus qui fait qu'il y a, de façon très contractualisée, une opération qui va se faire entre des personnes qui sont là, une société qui est là, puis des personnes qui viennent pour créer une réalité nouvelle. Et n'oubliez pas que l'antonyme de l'intégration, c'est la désintégration. C'est-à-dire que si on veut renvoyer des gens qui sont dans un processus d'intégration, on porte atteinte aussi à une certaine unité nationale, une certaine cohésion.
Donc ça veut dire... Mais je suis déjà surpris par une partie de votre réponse, Jacqueline Costa. Oui. Ce que vous dites, ça peut aussi concerner des Français, c'est-à-dire des personnes qui ont acquis la nationalité française, qui sont d'origine étrangère. Ça veut dire que l'acquisition de la nationalité ne met pas un terme au processus d'intégration?
Justement, c'est la question que vous posiez. C'est la question du partage de la langue, c'est la question du partage des valeurs. Si l'intégration d'une catégorie de population comme des étrangers se passe mal, on en pâtit tous. On est tous partie prenante dans des, on espère, des réussites de l'intégration.
Oui, mais s'ils sont français, ils ne sont plus étrangers. C'est ce que j'ai du mal à comprendre.
Mais ce n'est pas uniquement une question de statut juridique et de carte d'identité. On le voit d'ailleurs pour des personnes qui sont françaises de naissance, issues de l'immigration et qui peuvent avoir des problèmes de toutes sortes dans la société. Et ça nous touche tous.
Est-ce que c'est une vision que vous partagez, Roger Carucci, c'est-à-dire l'intégration qui est un processus suffisamment long qui ne s'arrête pas seulement aux portes de l'acquisition de la nationalité?
C'est vrai, en même temps, il faut être prudent, parce que si on commence à dire que ceux qui sont nés français doivent continuer ou poursuivre un processus d'intégration, ça risque de faire tache d'huile et de nuire, à mon avis, à l'ensemble du processus. On est en face d'un élément extrêmement simple. Aujourd'hui, le processus d'intégration ne fonctionne plus. Ou plus exactement, il est sursaturé, il fonctionne mal. Autrefois, on parlait d'assimilation. On est passé là-dessus, on est passé à l'intégration. Mais pour que l'intégration ait du sens, il faut que ceux qui sont sur le parcours d'intégration doivent être acceptés, reconnus, et à partir de là, intégrés par, effectivement, l'apprentissage de la langue française, l'apprentissage des valeurs de la République, l'apprentissage de ce qu'est la société française. Aujourd'hui, l'apprentissage est extrêmement faible, n'est pas vérifié, et finalement est de médiocre qualité, quels que soient les efforts des intervenants. Parce qu'on n'y met pas les moyens, soyons clairs, on n'y met pas du tout les moyens. Et je pense que dans l'esprit des Français, ce qui n'est pas la même chose, on confond la saturation de notre système par l'immigration ou l'immigration clandestine, le droit d'asile et l'intégration.
Donc je comprends en tout cas dans votre réponse que pour vous, Roger Karoutchi, les questions d'intégration, elles sont réservées aux étrangers, disons, en tout cas ceux qui n'ont pas encore la nationalité française. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous voyez les choses, Carlos Arbeláez? Et est-ce que tous les étrangers qui arrivent en France ont des besoins identiques d'intégration?
Plutôt à tout cela, je ajouterais que l'intégration, c'est un processus réciproque. Donc pour pouvoir s'intégrer, il faut qu'il aille aussi de l'autre côté une société accueillante, c'est-à-dire une société prête à faire cet échange entre la personne, les nouveaux arrivants et la société d'accueil. Donc je pense que pour pouvoir créer des conditions propices, que les gens ils apprennent la langue, la culture et tout ce qui vient avec, il faut aussi en face une société qui est prête à donner les conditions nécessaires pour que tout cet échange ait place.
Est-ce que ça veut dire que pour vous, dans ces conditions, c'est un processus qui commence dès le moment où une personne qui est étrangère à un pays met le pied sur le sol de ce pays, en l'occurrence la France?
Bien sûr, et ça doit être comme ça, parce que c'est gagner du temps en fait. Et je pense que l'intégration commence même du moment où on quitte chez soi en fait.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jacqueline Costa-Lascou? C'est-à-dire oui. Qu'un processus d'intégration, ça commence avant même, du coup, d'obtenir un titre de séjour. C'est ce que ça veut dire.
C'est une démarche. C'est pas pour rien que le mot intégration, c'est la même racine qu'intégrité, qu'intégrale, et que ça vient d'ailleurs, justement, c'est pas simplement une insertion sociale. Ça, et c'est pas l'assimilation au sens où on vous demande de disparaître, d'être ingéré par le corps social français. C'est vraiment un processus. Je suis tout à fait d'accord avec Carlos. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, un processus avec une réciprocité, avec une démarche contractuelle aussi des deux côtés. Si on ne fournit pas les conditions de l'intégration côté de la société française, ça veut dire que finalement on impose uniquement des comportements. Et ça ne marche pas.
Mais sur le moment où on déclenche, on va dire, les programmes d'intégration, il faut les déclencher dès le départ, c'est-à-dire dès le moment, par exemple, dans le cadre d'une demande d'asile, dès le départ d'une demande d'asile, ou bien est-ce qu'il faut attendre que cette demande soit acceptée pour faire bénéficier la personne de ces programmes, sachant qu'elle a donc vocation à rester sur le sol français?
Comme tout processus, il y a des étapes. Et il y a des obligations du côté de la société française et des obligations du côté des étrangers qui se précisent à partir du moment où il y a une volonté d'installation en France. Mais n'oubliez
pas... Quand on fait une demande d'asile, c'est qu'il y a volonté. Ça ne veut pas dire qu'elles sont acceptées, mais en tout cas, du côté
absolument.
Du demandeur, il y a une volonté.
Démarche. Il y a une démarche. Mais vous savez que désormais, il y a des demandes qui vont... On a aujourd'hui, par exemple en Afrique, des endroits qui permettent, dans les ambassades de France, alors qu'à un moment donné, ça s'était beaucoup effacé, maintenant, semble-t-il, le processus réapparaît en ce sens. Donc je pense que dans la mondialisation aujourd'hui, il ne faut pas voir l'immigration comme simplement un voyage vers la France. C'est beaucoup plus complexe que ça.
Roger Karoutchi, est-ce que l'expression d'une volonté de rester en France est suffisante pour déclencher des programmes d'intégration, ou bien est-ce qu'il faut attendre que la France ait accepté que les personnes restent sur son sol?
Je peux comprendre la vision, pardon, un peu naïve, un peu angélique. Quiconque met un pied sur le territoire français a droit à l'intégration. C'est non.
C'est pas un droit.
C'est non. D'abord parce que c'est pas possible. Quand vous avez, comme en 2017, 102 000 demandes d'asile, et que OFPRA appelle devant la Cour nationale, au final, on en donne 34-35%, c'est-à-dire 34 000. Ça veut dire qu'il y a 67 000 sur les 101 000 à qui on a dit « Désolé, vous n'avez pas le droit d'asile, vous devez quitter le territoire national ». Évidemment que ces 64 000 à qui on dit vous devez quitter le territoire national, il n'y a pas d'effort d'intégration à faire avec eux puisque vous leur dites de quitter le territoire national.
Sauf que vous connaissez les délais qui sont importants aujourd'hui pour accorder l'asile.
Mais alors
en moyenne 12 mois. Est-ce que c'est pas énormément de temps perdu?
C'est beaucoup de temps perdu et si on demande depuis des années à ce que les procédures de droit d'asile soient raccourcies en mettant plus de moyens sur l'étude des droits, c'est pour ça. Quand on dit, et le gouvernement nous dit d'ailleurs, dans le texte qui est proposé, qu'il veut mettre plus de moyens pour faire en sorte que, en l'espace de 3-4 mois, les procédures soient terminées. On verra. Il y a d'ailleurs une procédure accélérée qui est beaucoup plus rapide, qui peut durer que 15 jours. Mais moi, je pense qu'il faut que les demandeurs d'asile soient fixés sur leur sort très vite, parce que c'est inutile de faire durer. Si la demande d'asile est acceptée, le processus d'intégration est enclenché. Si la demande d'asile est refusée, je suis désolé, c'est un départ du territoire national.
Quel malentendu. Nous sommes sur un vrai malentendu, là, Monsieur Carucci. Si. Moi, je parlais d'un processus, Carlos aussi. Mais je dis qu'il y a des étapes. C'est-à-dire que la responsabilité des autorités françaises dans, par exemple, l'apprentissage de la langue, dans l'apprentissage des valeurs, etc., c'est un engagement à partir du moment où on a accepté la demande d'asile.
Ah, ben voilà.
Voilà.
Mais vous n'êtes pas, c'est pas au moment où vous arrivez sur le territoire, parce que si vous êtes à partir de l'acceptation de la demande, c'est 6 mois ou 1 an après.
Non, mais l'hospitalité, ça fait partie. L'hospitalité, ça fait partie d'un processus.
Mais c'est pas le même système.
Ce que propose le député La République En Marche, Aurélien Attaché, c'est que certains programmes d'apprentissage de la langue française puissent démarrer avant l'obtention du droit d'asile. Carlos Arbelaez, pour parler peut-être de votre expérience à vous, ça a été. Est-ce que ça a été long d'abord d'obtenir justement le statut de réfugié qui est le vôtre aujourd'hui en France, et est-ce que pendant cette période dans laquelle vous attendiez la réponse des autorités françaises, est-ce que vous avez quand même pu bénéficier de programmes d'intégration, si ce n'est des programmes officiels, mais aussi peut-être des aides par des associations ou par des gens que vous connaissiez?
D'accord. Et il faut comprendre d'abord que mon cas, ce n'est pas du tout représentatif de l'ensemble de la population des réfugiés. Voilà, je suis arrivé en 2011. En juin 2002, j'ai eu la réponse de la OFPRA, comme quoi j'étais reconnu comme réfugié.
Donc c'était plutôt rapide.
C'était plutôt rapide, oui.
Par rapport à la moyenne.
Par rapport à la moyenne. Et pendant tout ce temps-là, je n'ai pas reçu vraiment des propositions pour apprendre la langue, par exemple. Pendant 4 mois, je suis resté dans les rues parisiennes, en train de comprendre tout ce qui s'est passé, parce que justement, j'avais pas les informations ni les outils pour comprendre toutes ces procédures. Je parlais pas la langue et je comprenais pas vraiment ce qui s'est passé. Et des côtés de l'État, bien sûr, il y avait des choses qui se faisaient à ces moments-là, mais j'avais pas accès à ces informations. Je savais pas que ça existait, par exemple, parce qu'il y avait la barrière de la langue, parce que j'étais dans un moment d'isolement. Et c'était la société civile en fait qui a pris la relais, et c'est comme ça qu'une famille française m'a proposé de venir chez eux.
Voilà, parce qu'il y a eu un reportage qui a été fait sur vous, sur les personnes qui se retrouvaient justement sans domicile, qui étaient à la rue, et suite à ce reportage, il y a une famille qui vous a contacté, c'est ça, qui vous a proposé d'être hébergé chez elle.
D'être hébergé chez eux, et je suis resté pendant longtemps. Donc au tout début, mon séjour dans ces maisons, il allait être très très court, parce qu'ils n'étaient pas sûrs, en fait, d'accueillir quelqu'un chez eux, quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Mais très rapidement, une fois, on s'est rencontrés, on a fait cette rencontre, ils se sont aperçus que, voilà, et cet échange, il était aussi riche pour eux. Et je pouvais parler espagnol avec les enfants, donc il y avait un échange des deux côtés. Moi, au contraire, j'apprenais les français, les codes socioculturels.
Et est-ce que ça vous a manqué de ne pas peut-être bénéficier d'un programme plus rapidement d'apprentissage du français? Et quelque chose de plus officiel, disons.
Bien sûr, j'ai gagné beaucoup de temps. Surtout au moment de la procédure de demande d'asile, je ne faisais rien, en fait, parce que je n'avais pas le droit de travailler et parce que je ne pouvais pas faire autre chose. Donc je passais mes journées à faire des tours sur Paris en réfléchissant à la suite.
Est-ce que finalement on peut y voir une forme de répartition logique, c'est-à-dire pendant la période où les demandeurs d'asile attendent la réponse, Roger Carucci, c'est la société civile, ce sont les associations qui prennent aussi partie de la politique d'intégration.
Je ne suis pas d'accord. Pour moi, le rôle de l'État est primordial. Alors que les associations aient un rôle, c'est une
ça
évidence.
Ça peut être complémentaire.
Non, c'est une évidence, Mais le rôle de l'État est à l'origine. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'un demandeur d'asile arrive, la logique veut qu'il y ait un guichet unique qui lui explique clairement tous ses droits, qui lui explique clairement ce que va être la procédure. Ensuite, ce qui est une évidence, et c'est le cas en 2011, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui, c'est la rapidité de la procédure. Il ne faut pas laisser les gens s'enferrer. C'est-à-dire que, dans le cas, évidemment, vous venez d'un pays où il y avait à l'époque une guerre civile, ou des conflits, ou des difficultés, la procédure doit être encore plus accélérée. Dans le cas où, par exemple, en 2017, nous avons eu sur les 101 000 demandes d'asile, vous avez 7600 Albanais. J'ai beaucoup de respect pour les Albanais.
Et ça fait des années.
Il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas de dictature en Albanie. Donc, il n'y a que 6,5% des demandes d'Albanais qui ont été acceptées. Ça veut dire que là, on a pas un détournement, mais enfin une usurpation sur la notion de droit d'asile. C'est évident que ça n'est pas le cas. Si on avait de demandes d'asile venant uniquement de pays en guerre, de pays en conflit ou de pays dictatoriaux, ce serait tellement plus simple. Mais ça n'est pas le cas. Et je pense que l'État doit dire à chacun ce que va être la procédure, et la procédure doit être rapide.
Je ne voudrais pas qu'on déborde trop sur la question de l'asile, mais comme je vois que Jacqueline Costalesco et que Carlos Arbeláez veulent réagir, peut-être brièvement sur ce sujet.
Une phrase. Le problème, c'est qu'actuellement, une bonne partie des pays sont à la fois des pays de misère et des pays de dictature. Et d'autre part, avec un développement des trafics de toutes sortes, qui fait que c'est très difficile parfois d'instruire certaines demandes, parce que la situation, et malheureusement la liste des pays sûrs, c'est pas toujours satisfaisant, c'est très difficile aujourd'hui d'instruire certaines demandes.
Carlos Arbeláez.
Oui, je vais aussi dans ce sens-là, où les conflits aujourd'hui partout dans le monde, ils sont de plus en plus complexes. Et même si, comme le sait M. Carucci, dans mon pays par exemple, il n'y a plus de guerre civile, et les assassinats politiques, ça a explosé.
Bien sûr.
Donc,
ça ne
veut pas dire que si c'est un pays où il n'y a pas de guerre, il n'y a plus de réfugiés.
Alors c'est un sujet très intéressant, de savoir finalement quels sont les critères pour accorder ou ne pas accorder l'asile, mais ça nous éloigne un petit peu de la question qui est la nôtre,
qui est celle de l'intégration. Le droit d'asile est un droit individuel. Ça veut dire que même si vous venez d'un pays dit sûr, on doit quand même étudier votre cas, parce que vous pouvez avoir une situation particulière.
J'entends bien, Et je renvoie d'ailleurs aux émissions précédentes qu'on a déjà faites sur le sujet. Sur la question de l'intégration et sur la question de la maîtrise de la langue, est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous êtes d'accord en tout cas les uns les autres, pour dire que c'est la condition en tout cas essentielle d'une intégration réussie? Jacqueline Costalesco.
Tout à fait, et je me souviens de, lorsque j'étais au HCI, que nous étions allés en Allemagne.
Au Conseil à l'intégration.
Au Conseil à l'intégration, merci. Il y avait une chose que les Allemands savaient faire, c'était les cours de langue. Et il y en avait beaucoup. Et en effet, vous savez qu'ils ont à peu près 600 à 700 heures de cours de langue, alors que nous, c'est assez lamentable la façon dont on fait les cours de langue. Et Monsieur Carucci, là, je pense que nous serons d'accord là-dessus. Votre rapport, d'ailleurs, en parlait tout à fait.
Oui, parce que vous faites le constat, Roger Carucci, dans ce rapport, d'un échec de la formation linguistique, en disant les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Vous disiez tout à l'heure, c'est notamment une question de moyens. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'abord, il faut donner davantage d'heures de cours, d'heures d'apprentissage aux étrangers?
Il faut à la fois donner beaucoup plus d'heures. En France, on est selon les cas, entre 50 et 200 heures. On vient de le dire, en Allemagne, on peut aller jusqu'à 800 heures. Bon, donc déjà, vous voyez la différence. Enfin, c'est grotesque. Bon. En plus, en France, on fait en fonction des flux, c'est-à-dire qu'arrivent des groupes qui ne sont pas du tout du même niveau, des gens qui ont quelques connaissances du français, des gens qui sont totalement extérieurs au français, et vous dites, allez hop, tous ensemble, dans le même groupe, on y va. C'est absurde. Et qui plus est, en France, qu'est-ce qu'on demande d'ailleurs? On demande à ce que les groupes atteignent ce qu'on appelle le niveau A1.
Bon. Quel niveau
Allemagne,
de base, on va dire?
C'est le niveau basique de basique. Hein. Mais même en demandant le A1, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de contrôle. L'assiduité suffit. Alors qu'en Allemagne ou en Angleterre, on demande des niveaux plus élevés en connaissance de la langue, et il y a un examen de contrôle de la connaissance. Donc, on lâche sur le territoire français des gens à qui on dit « Vous avez suivi, soi-disant, des cours de langue. ils n'ont ni le nombre d'heures, ni la connaissance.
Est-ce que c'est un constat que vous faites aussi, vous, Carlos Arbelaez, dans le cadre, alors là je passe aux militants associatifs, c'est-à-dire du travail que vous faites dans les associations dont vous avez été soit le président, soit que vous avez développé par la suite. Il y en a une qui vise à l'intégration, notamment l'intégration professionnelle hein, d'ailleurs des réfugiés.
Oui, je pense que peu importe les mécanismes que l'on met en place pour l'apprentissage et la langue, si on n'a pas envie d'apprendre la langue, on ne va pas le faire même avec 600, 700 heures d'études. Si une personne réfugiée au bout d'un an, il a rencontré quelle assistance sociale les personnes françaises à la préfecture et ils ne connaissent pas d'autres personnes, je pense qu'ils n'ont même pas l'envie de pratiquer ces langues parce qu'ils n'ont pas besoin. S'ils restent enfermés dans leur communauté, ça ne marche pas. Donc je pense que la langue, c'est très important. Mais ceci, c'est tout ce qui vient avec. C'est aussi les logements, c'est aussi des espaces de rencontre avec la société d'accueil pour que tout ça puisse marcher ensemble. Sinon, c'est...
Ces espaces de rencontre, vous trouvez qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux et ça peut être quoi des espaces de rencontre justement entre la société française et ceux qui ont vocation à rejoindre cette société?
Et ce que j'ai retrouvé pour mon expérience, c'était les mondes associatifs en fait. C'était dans les mondes associatifs où j'ai trouvé cet espace de rencontre où il y avait des bénévoles qui venaient partager avec des nouveaux arrivants.
D'où l'importance du monde associatif, Jacqueline Cossalasco. Oui, peut-être d'autant plus que vous nous disiez en préparant l'émission qu'il y avait aussi une crise des corps intermédiaires et que du coup, ces corps intermédiaires, notamment les syndicats, ne remplissaient plus ce rôle qu'ils avaient pu avoir autrefois.
Les syndicats, oui, ne remplissent plus pas suffisamment ce rôle. Les associations, si. Mais il y a un vrai problème d'inégalité, justement, de prise en charge par les associations. C'est pas la même chose d'être prise en charge par une association aussi importante que France Terre d'Asile ou une petite association de quartier qui, sur le plan humain, peut faire quelque chose de très bien, mais qui va pas faire appel, par exemple, à quelqu'un qui a un diplôme de français langue étrangère. N'oublions pas que nous avons des personnes qui ne sont pas actuellement, qui ne trouvent pas de travail et qui ont le diplôme de français langue étrangère. Bon, il y a beaucoup de choses à revoir sur ce plan, mais dans le rapport d'Aurélien...
Donc la langue, c'est important, mais ça n'est pas, comment dire...
C'est la communication, oui. Hein, la langue. Et Aurélien Taché dit quelque chose qui a marché à certains moments, et je ne sais pas pourquoi, on n'en parlait plus, puis ça revient, l'idée qu'il y a des formes de parrainage. Je pense que ce serait très important que, comme Carlos l'a connu, il y ait des familles françaises, plus qui participent justement à l'accueil, à l'explication de comment on vit en France, etc. Et c'est dit, donc des formes de parrainage, de même que dans les entreprises. Moi, j'ai vu des entreprises où on fait des parrainages des étrangers pour leur expliquer aussi bien le règlement intérieur que ce qui se passe dans l'entreprise.
C'est plutôt une bonne idée, ça, Roger Carucci. C'est-à-dire, ça permet au moins de renforcer peut-être l'efficacité d'une politique d'intégration.
Il ne faut pas antagoniser le système.
Non, c'est pour ça que je parle de cause.
Ce que je veux
dire,
c'est que aujourd'hui, pourquoi le système ne fonctionne plus? C'est parce que, d'abord, on n'a pas mis les moyens depuis des années, gauche-droite, hein, et deuxième élément, parce qu'il est asphyxié par le quantitatif. Si nous avions évidemment, pardon de le dire, moins de demandeurs d'asile, moins d'immigration, peut-être que les structures existantes suffiraient.
Les Allemands ont eu beaucoup.
Oui, mais parce que les Allemands n'ont pas exactement la même situation, ni démographique, ni budgétaire,
ni
fiscale, ni tout ce qu'on veut. Bon. Donc, restons sur le cas français, qui est malheureusement ou heureusement ce qu'il est, et qui doit être traité comme tel. Moi, je pense que les parrainages civiques, moi, je suis plutôt pour, mais attention... Il faut clairement dire les choses. Tout cela n'est faisable, réalisable et n'a de sens qu'avec des gens qui ont obtenu le droit d'asile, qui sont de vrais réfugiés et qui sont réellement en situation régulière sur le territoire national. Sinon, on rentre dans une phase extrêmement compliquée où, après coup, c'est beaucoup de déceptions et beaucoup de difficultés. Mais pour ceux qui réellement obtiennent le statut de réfugié, pour ceux qui réellement sont appelés à intégrer la nation française, parce que pour moi, l'intégration, c'est aussi l'intégration dans la nation. Ça passe par la langue, ça passe par les connaissances civiques, et je suis, dans mon rapport, très critique sur l'adaptation ou les notions qu'on donne sur ce qu'est la société française.
Alors justement, j'allais venir sur ce sujet, les connaissances civiques, c'est-à-dire à la fois la connaissance de l'histoire, puis la connaissance aussi des valeurs d'une société. Là encore, Carlos Arbeláez, comment est-ce que cet apprentissage-là, vous l'avez fait? Est-ce que ça a été toujours au contact de la famille qui vous a accueilli lorsque vous êtes arrivé à France et puis chez qui vous êtes aussi beaucoup resté? Et comment est-ce que vous voyez justement cet apprentissage? Est-ce que ça doit passer, par des cours d'histoire des Gaulois jusqu'au général de Gaulle, ou bien est-ce que ça doit être autre chose?
Moi, j'ai appris l'histoire de la France autour d'une table, en train de partager un dîner avec ses familles. Et aussi, j'ai eu la chance de rentrer à l'université. Donc, c'est vraiment à l'université où j'ai pu comprendre toute l'histoire de la France. Mais comme je vous dis, mon cas, ce n'est pas du tout représentatif de ce qui arrive à l'ensemble des migrants.
Il y a l'histoire et puis il y a aussi les valeurs. C'est-à-dire qu'il y a des codes d'une société qui ne s'improvisent pas.
Bien sûr. Et j'ai remarqué aussi que dans le milieu associatif, il y a beaucoup des initiatives pour transmettre toutes ces connaissances. Et par exemple, il existe des ateliers où on va goûter les fromages, on va goûter le vin. Et autour d'une chose aussi simple que ça, on va parler de l'histoire de la France, en fait. Et il y a des visites dans les musées, il y a plein de choses qui s'est fait dans les milieux associatifs. Et pour revenir à quelque chose qu'a dit M. Carouche tout à l'heure, je pense que l'un des problèmes aujourd'hui, c'est que les gens, les nouveaux arrivants, ils sont totalement méfiants des initiatives de l'État. Et ils sont méfiants parce qu'ils voient des politiques qui sont de plus en plus répressives et qui sont de plus en plus contraignantes pour arriver à obtenir, par exemple, dans mon cas, le statut de réfugié. Et à chaque fois qu'il y a des initiatives qui sont dans le sens d'apprentissage de la langue, d'apprentissage de la culture, etc., on se méfie beaucoup de ce qu'il peut y avoir. Et les gens, ils n'ont pas envie même d'y aller demander.
Ce qui rejoint la question qu'on pose ce soir, de manière un peu générique, l'intégration peut-elle se passer de politique? Jacqueline Costa-Lascou, je voulais réagir à ce que disait Carlos Arbeláez.
Non, tout à fait. Il faut la société civile est partie prenante, mais il faut une politique. Et justement, sur la question des valeurs, c'est important.
Mais alors, ça doit être quoi, cette politique? Ce sont des cours magistraux? Comment est-ce que ça doit se faire? Parce que c'est un petit peu ça, ok. Enfin, il va nous le dire mieux que je le dis, mais que pointer notamment Roger Carucci, c'est-à-dire des méthodes d'apprentissage qui n'étaient pas forcément très, très adaptées et très motivantes.
Les méthodes d'apprentissage n'était pas adapté, le langage était souvent très techno ou très juridico-institutionnel et il faut donner des études de cas, il faut expliquer des métaphores, mais surtout
il y a des notions qui sont extrêmement françaises, la laïcité par exemple, comment est-ce que vous expliquez la laïcité à
très
un public où la laïcité n'existe pas, c'est-à-dire partout ailleurs dans le monde?
C'est limpide la laïcité. Non, pas partout dans le monde. Il y a 12 pays dans lesquels. Non, c'est limpide la séparation du politique et du religieux, mais pas pour des personnes qui viennent en effet de sociétés théocratiques.
Ouais. Enfin, c'est limpide, ça l'est déjà pas en France parce qu'on débat sur les questions de laïcité. Alors imaginez pour un étranger quand même.
On en débat pas toujours avec bonne foi.
Certes, mais bon.
Moi j'ai fait ce genre de choses. J'ai fait des formations. Et par exemple. Il y a des fils rouges qui permettent les droits de la femme, la condition de la femme par rapport à l'homme. L'égalité. On peut passer par... Les droits de l'enfant. L'enfant, ce n'est pas la propriété des parents. Il a des droits fondamentaux. Vous voyez, il y a des choses qui impliquent directement les personnes. Et quand, je pense à un monsieur qui disait « Ah bon, alors j'aurais plus le droit de taper ma femme ?» Je dis « Non. » Mais on explique. Alors simplement, il ne faut pas faire un cours ex cathedra comme à la faculté de droit. Je sais faire. Mais il faut trouver le moyen d'expliquer qu'il y a aussi des gens dans ce pays, ici en France, qui ont donné leur vie pour la conquête des libertés.
Dans votre rapport, Roger Carucci, à propos de la formation civique, vous faites le constat d'une absence d'interactivité entre l'enseignant et l'auditoire, c'est-à-dire quelque chose peut-être d'un petit peu trop désincarné en la matière.
Aujourd'hui, la formation n'existe pas. Il faudrait mieux la supprimer plutôt que de faire ce qu'on fait. Mm-hmm. Quand vous avez une espèce de diaporama qui, en une heure et demie, va de Vercingétorix à François Mitterrand, et que, évidemment, seul l'enseignant, qui d'ailleurs est de bonne volonté, explique tout ça dans l'indifférence totale de gens qui écoutent ou qui n'écoutent pas, c'est grotesque. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Si on veut intégrer...
Quand vous dites qu'il n'y a pas de contrôle, c'est-à-dire qu'il faudrait faire quoi ? Passer un examen derrière et puis si on a bien répondu, on a le droit à...
Pardon de dire. Moi, vous autres invités peut-être, je suis pour une responsabilité de l'État. C'est la France, c'est l'État français qui doit décider qui rentre, qui rentre pas, qui est intégré, qui ne l'est pas. C'est pas table ouverte.
Pardonnez-moi, Roger Karoutchi, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, vous donnez des papiers et ensuite...
Vous donnez un statut de réfugié ou si vous voulez intégrer à la nationalité française, vous avez une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est pas une heure et demie pour l'instruction civique. C'est en réalité plusieurs semaines. C'est accepter de mettre là le paquet pour l'apprentissage de la langue, l'apprentissage de la société, les valeurs de la République, de la laïcité et les valeurs civiques classiques. C'est pas une heure et demie.
Mais si vous voulez rester dans l'entre-deux, c'est-à-dire vous voulez avoir des papiers, mais sans pour autant obtenir la nationalité française, est-ce que vous avez besoin de faire le même parcours d'intégration ? Parce qu'on peut très bien aller s'installer dans un pays, je suis français, je peux très bien aller dans un pays à l'étranger et ne pas vouloir, à terme, demander la nationalité de votre pays.
Si votre seul souhait, c'est de travailler, si vous êtes accepté par l'État dans lequel vous allez, c'est votre problème. Mais si vous voulez un parcours d'intégration, soit pour être réfugié politique, soit pour obtenir la nationalité française, je suis désolé, mais vous la demandez à l'État français, la nationalité, vous la demandez pas. Bon, donc c'est à l'État français de définir les conditions.
Et la souveraineté, c'est essentiel. Bah, la souveraineté de l'État français, et d'ailleurs, c'est la crédibilité d'un État que d'affirmer sa souveraineté sur ces questions régaliennes.
Carlos Arbelès, je peux vous demander, quel est votre projet aujourd'hui d'intégration, justement, à la société française ? Jusqu'où vous avez envie de le pousser ?
Un projet d'intégration, je pense que... C'est pas tout à fait clair pour moi. Parce que j'ai trouvé tellement d'obstacles jusqu'à maintenant pour ces processus d'intégration que je sais pas à quoi ça va aboutir. Mais
c'est pas forcément un projet personnel. Ça peut être en tout cas un projet aussi d'aider d'autres personnes qui se retrouvent dans votre cas. Il y a une association que vous avez créée qui s'appelle Espero, c'est ça ? Vous pouvez nous en dire un mot ?
Donc, pour l'instant, voilà, je me concentre plutôt pour aider les autres à s'intégrer. Donc, Espero, c'est une association qui valorise les savoir-faire des nouveaux arrivants. Donc, c'est une association qui, à travers l'apiculture urbaine, elle rend l'autonomie à ces nouveaux arrivants. Aujourd'hui, on travaille, par exemple, avec Ibrahim Karout, c'est un apiculteur syrien qui a 30 ans d'expérience en apiculture. Et quand je l'ai rencontré, c'était quelqu'un qui travaillait dans les bâtiments. Et pour moi, c'était vraiment un gâchis, tous ses potentiels et toutes ces richesses qu'il avait. Et comme lui, il y a des milliers de personnes qui arrivent en France avec plein de compétences dans plein de secteurs divers et que se retrouvent totalement bloquées par un isolement qui est le résultat des plusieurs choses.
Cette question d'ailleurs des compétences, est-ce que ce n'est pas aussi un des problèmes de la politique d'intégration aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être de sous-estimer et de sous-utiliser un certain nombre de compétences qui sont celles de personnes qui arrivent chez nous,
Jacqueline Chosselascu. Je crois que c'est très important et c'est un changement d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on disait qu'il faut une pédagogie plus interactive et plus de temps pour apprendre les valeurs, etc. Mais il y a plus que ça. C'est qu'il faut penser que la personne en face peut avoir des compétences et qu'elle ait le temps, la possibilité de les exprimer. Ce qui est frappant dans certains cours dont parlait M. Karoutchi, c'est que c'est des cours avec des gens qui sont là, passifs. Donc il faut changer vraiment d'état d'esprit, là.
D'où peut-être l'idée d'avoir des groupes qui seraient plutôt des groupes de niveau,
c'est-à-dire
en fonction de la formation.
Naturellement, on ne peut pas traiter de manière uniforme tout le monde. Alors, en revanche, un mot quand même sur ce qui apparaît comme, entre guillemets, le déclassement quand on émigre. Si vous faites une étude complète sur des gens qui n'étaient pas des émigrés, qui revenaient en France et rapatriés d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de déclassements. Et beaucoup de gens qui ont dû refaire leur vie. Donc, je dis pas que c'est un exemple.
C'est parce que l'on vécu ça, il faut que tout le monde
à partir du moment où vous quittez une société, une organisation, et que vous entrez dans une autre société, une autre organisation, c'est, je le reconnais, un effort colossal. Et l'effort doit être partagé. Si vous voulez devenir français, il doit y avoir un effort de la société française pour vous intégrer, et un effort de la personne qui le souhaite de faire cet effort de, d'apprendre le français, de participer aux valeurs classiques de la République, et à partir de là, de refaire sa vie. Mais c'est vrai, quand vous entrez dans une nouvelle société, que vous entrez dans la nationalité française, si ça n'est pas votre nation d'origine, c'est un effort. Mais l'effort, il est merveilleux s'il est partagé et si réellement vous avez envie d'être français.
Et si c'est une nouvelle vie.
Et si c'est
une nouvelle vie qui commence.
Et quoi de mieux que pour partager cet effort que de participer au service national universel. Alors là, on est dans une des propositions qui est celle du rapport de la Fondation Jean Jaurès qui serait d'ouvrir le futur service national universel aux primo arrivants. J'aimerais avoir votre
avis. Je croyais que vous alliez nous parler de théâtre, de culture,
non,
bah,
je
de
vous parle
musique.
De ce qu'il y a dans les rapports qui sont publiés, moi. Bon, Jacqueline Costalascu, non, ça vous semble
non, moi, là, j'ai vraiment beaucoup plus envie de l'importance de la culture, l'importance
non,
de
le service national universel, moi, je vous demande. Non, ça serait pas une bonne idée.
On en fait bien un outil d'intégration
alors, autant, en général, au sens
non,
très très large.
Attendez, autant. Je voyais pourquoi M. Carucci trouvait que ma vision de l'hospitalité était un peu angélique, mais là, attendez, le service national, il faudra quand même vraiment qu'on soit, à mon avis, bon, français, etc. Enfin, je veux dire que là, c'est une étape dans la présence dans la société française qui soit aussi une adhésion aux valeurs de la société française, etc. On ne va pas enrôler, excusez-moi, sinon ça devient ce que les Américains appelaient l'incorporation. Non.
Bon, Carlos Arbeales me fait signe qu'il n'a pas forcément envie de répondre à cette question-là. Alors j'ai une autre suggestion à vous faire. Laissons de côté le service national
pas
universel.
Pas l'incorporation.
Et créons, c'est encore toujours dans le rapport de la Fondation Jean Jaurès, créons ou plutôt recréons un ministère de l'intégration qui nous rappelle quelques souvenirs, Roger Carucci.
Moi, je ne suis pas hostile à la création d'un ministère de l'intégration. Tout dépendra de savoir quelles sont ses compétences et ses moyens. Si c'est juste de l'affichage, ça ne sert strictement à rien.
Si, vous voulez dire si c'est juste de l'affichage comme ça a été le cas avec l'ancien ministère de l'immigration et de l'identité avait, même s'il a été décrié,
des moyens et des compétences. Moi, je crains, sur un ministère de ce genre, que ce soit juste pour dire on fait un effort. Faisons l'effort d'abord, créons le ministère après.
Et ne faisons pas une stigmatisation sur les populations immigrées. Je crois que là, on aurait... C'est pour ça qu'on était contre l'idée d'un ministère de l'immigration.
Un dernier mot, Carlos Arbeláez. Si vous deviez donner quelques conseils fondamentaux à des personnes qui arrivent en France aujourd'hui, vous disiez, bon, alors mon parcours, il n'est pas représentatif du parcours en général des étrangers, mais quelles sont peut-être les erreurs à ne pas faire quand on veut justement essayer de s'intégrer le plus rapidement possible, disons.
Il faut aller à la rencontre des gens, en fait. C'est pas évident parce que c'est pas forcément que tu vas trouver des gens accueillants en face de toi, mais si on montre une attitude peut-être ouverte vis-à-vis des autres, je pense que c'est dans cet échange-là qu'on va pouvoir vraiment s'enrichir. Et avant de finir, je voulais juste ajouter que voilà, les 21e siècle, c'est les siècles de réfugiés, en fait. Ici, dès aujourd'hui, on commence pas à construire les bases pour construire toutes ces solutions qui on aura besoin dans quelques années. Je pense qu'on va pas s'en sortir. Et c'est la responsabilité aussi des chefs politiques de n'importe quel État, en fait, de commencer à avoir une vision de beaucoup plus long terme. Parce que si on n'est pas cohérente dans tous ces efforts, on ne va pas s'en sortir.
Eh bien, je propose que ce soit la conclusion pour la discussion de ce soir. Merci beaucoup à tous les trois d'y avoir participé. Jacqueline Costalascu, Carlos Arbeláez et Roger Carucci. Discussion que vous pouvez retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Et puis je vous renvoie également au dossier du jour dans La Croix, notre partenaire pour cette journée spéciale, dossier intitulé « Penser l'immigration ». L'équipe du Grain est composée de Marine Beccarelli, Antoine Tréco, Virginie Ledioux, Antoine Ulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Inès de Brune. Dans un instant, vous retrouverez la dispute avec Arnaud Laporte.
Lui-même. On va parler d'art plastique ce soir. Nous irons au musée du Quai Branly, au Petit Palais et à Béton Salon. Avant cela, je voudrais quand même savoir quelle sera la question demain posée dans du Grain à Moudre à Rigardette.
Le ministère de la Justice est-il encore nécessaire? Discussion entre deux Dominique, Rousseau et Perben.
Bon, ça promet, encore une fois.